Je vais commencer tout de suite, mais je pense que cette conférence-là va beaucoup rebondir sur la conférence qu'on a eue plus tôt là, sur Echenov et les Grandes Blondes par Sarah Bédard-Moulet, enfin, vous l'ouvrez. Pourquoi proposer dans le cadre de ce colloque une étude comparée de Lady in the Looking Glass et du ravissement de Loewenstein? Par-delà le fait qu'ils font mention explicitement de l'objet miroir, en quoi ces deux textes, écrits donc à quelques 35 ans d'intervalle, le premier en 1929 et le second en 1964, par deux auteurs issus de courants littéraires comme toutes fort distincts, peuvent être rapprochés et fournir une réflexion enrichissante sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. J'entends montrer que c'est l'activité de négociation entre l'objet de la narration et l'objet de la narration, c'est-à-dire entre l'objet qui est la cible de la narration et l'objet produit par elle, qui permet de penser conjointement la fonction du reflet dans la nouvelle de Virginia Woolf et dans le roman de Duras. The Lady in the Looking Glass et le ravissement de Loewenstein ont en effet en commun la volonté explicitement articulée par leur narrateur d'atteindre un objet imprenable qui est dans les deux cas sujet féminin. Ainsi, l'entreprise narrative se fait-elle tentative d'avoir prise sur ces femmes en même temps que celles-ci subissent, du fait de cette narration elle-même, une destitution subjective. Évidemment, chez Isabella, donc le personnage de la nouvelle de Woolf et des personnalisations chez Loewe. Or, dans ce jeu d'images et de regards qui régit la relation narration-objet visé, quelque chose advient qu'il en est, si par ailleurs toujours en quelque sorte décalé de l'objet lui-même, pas moins objet. Et c'est cette production qui, précisément, me semble être devoir être la manière de lecture et la matière de lecture de ces deux œuvres, prises séparément, mais surtout lorsque mises en commun. La question qui me guidera ici est donc la suivante. Dans cette mise en récit, qui est aussi courbe asymptotique du désir vers son objet, qu'est-ce qui se perd? La réponse est peut-être évidente, mais qu'est-ce qui, par ailleurs et surtout, vient à l'être? Alors, l'œuvre de Virginia Woolf est tout entière traversée par le problème de l'inadéquation du mot et de la chose. Green in nature is one thing, green in literature another. Remarquez avec des pis un Orlando penché sur ses manuscrits. L'enjeu est celui de trouver une manière de dire qui puisse rendre compte de cette vérité fragile, qu'il s'agit à tout prix de préserver de la violence de la description positiviste qui, toute tournée vers les faits, escamote le mouvement, l'intime, la conscience, autant de matières premières de l'écriture wolfienne. À cette menace répond la première phrase de The Lady in the Looking Glass. Je la cite. People should not leave looking glasses hanging in their rooms any more than they should leave open checkbooks or letters confessing some hideous crime. Si le reflet trahit, et c'est tout le drame d'Orlando écrivain, c'est qu'il paralyse. J'ai complètement oublié de faire le résumé des œuvres que j'ai à l'étude aujourd'hui, mais rapidement, la nouvelle de Woolf, c'est une nouvelle assez courte de 9 pages, 9 ou 10 pages, et essentiellement, c'est le narrateur, Wayne, qui essaie de traquer son objet, donc Isabella, depuis la chambre de cette femme-là et en l'absence de cette femme-là surtout. Éventuellement, elle reviendra, mais elle n'est pas là. Pendant les premières pages, du moins. Alors, au tout début de la nouvelle, le narrateur observe la chambre d'Isabella tour à tour directement et à travers le reflet qu'en donne le miroir. Et il remarque, je cite encore, « Meanwhile, since all the doors and windows were open in the heat, there was a perpetual sighing and seizing sound, the voice of the transient and the perishing, it seemed, coming and going like human breath, while in the looking glass, things had ceased to breathe and lay still in the trance of immortality. » Dans la station. Miroir unificateur, donc, dont on a parlé, qui rappelle celui de Lacan, dans lequel l'enfant reçoit l'image d'une forme totale, la gestalt, on l'a nommé aussi, de son propre corps, pourtant contraire à la turbulence de mouvement dont il s'éprouve l'animé. De la chambre et de ses secrets, la lentille de la narration, je vous l'ai dit, se déplacera éventuellement vers Isabella elle-même, sans toutefois que celle-ci soit nécessairement présente à la scène. Je cite encore, Isabella did not wish to be known, but she should no longer escape. It was her profounder state of being that one wanted to catch and turn to words, The state that is the mind, what breathing is to the body, what one calls happiness or unhappiness. Fin de la citation. Or justement, cette intimité de la conscience pose un problème similaire à celui rencontré plus tôt avec les objets. Vous remarquerez aussi que Wolf a nommé pour les deux le verbe respirer. Alors, her mind was like her room, in which lights advanced and retreated, came pirouetting and stepping delicately, spread their tails, pecked their way, and then her whole being was suffused, like the room again, with a cloud of some profound knowledge, some unspoken regret, and it was full of locked drawers, stuffed with letters, like her cabinets. Devant les postures portraitistes, et on sait le mépris d'ailleurs que Wolf avait pour les biographies et les biographies victoriennes et surtout les biographes victoriens, devant cette imposture, donc, le narrateur conviendra qu'il faut avoir recours à l'imagination. Il suffit de se mettre dans ses souliers, nous dit-il, et là c'est la traduction littérale de l'expression anglaise, mais qui serait « on va se mettre à sa place » en français. Et donc il poursuit dans une espèce de lancée, et là il parle de ses souliers qui sont très étroits et à la mode, ils sont faits du plus doux et du plus souple cuir, ce sont ceux dans lesquels elle se tient probablement dans le jardin plus bas, un ciseau à la main, s'apprêtant à couper une fleur morte ou quelques branches envahissantes, et puis là il y a le soleil qui éclaire son visage, puis qui lui donne une expression, et là éventuellement l'impossibilité fait retour, quelle expression, qu'est-ce qu'elle trahit, quelle pensée derrière elle, et donc malgré ces tentatives-là, ces entrées de l'imagination dans le portrait, d'un bout à l'autre de la nouvelle, le langage se heurte au secret de la conscience intime, dont le reflet du miroir, tout autant que les faits d'ailleurs, est incapable de fournir la trace. Je vais y revenir plus tard, mais je vais d'abord explorer avec vous un petit peu les enjeux narratifs autrement complexes du ravissement de Wittgenstein. Encore ici, je vais me permettre une petite incise. Le ravissement de Wittgenstein, qui est un roman assez court de Duras aussi, raconte, en fait, c'est la tentative de Jacques Auld d'atteindre Alol Wittgenstein, qui est la meilleure amie de sa femme à lui, finalement, ou d'une femme avec qui il a une relation. Et cette Lol, on en sait peu de choses, mais on sait qu'elle a subi un événement assez marquant qui était cette nuit finalement au casino de Tea Beach où son amant à elle est parti avec une autre femme après une danse. Et elle a été laissée toute seule et on dit depuis qu'elle est folle. Elle est devenue folle. Donc, certains ont décrit l'écriture de Marguerite Duras comme une écriture de l'absence, absence de parole sur fond de laquelle se négocieraient des silences plus éloquents que les mots eux-mêmes. C'est souvent l'empêchement, du moins à mon avis, qui permet de mesurer la portée de se dire troué. Le titre du roman qui nous occupe ici insiste déjà sur l'impossibilité d'une parole. Empêchement comme impossibilité de nommer cette femme qui déjà a perdu la dernière lettre de son prénom, le A de Lola, et qui ne garde du nom du milieu, Valérie, que l'initiale, V donc. Aussi, la formule de Paul Ricoeur me semble tout appropriée ici. Il écrit dans le parcours de la reconnaissance, à la limite, et là la limite c'est ce moment où l'identité devient profondément troublée, profondément brouillée, indéchiffrable. À la limite donc, le nom identifiable devient l'innommable dans la perte du nom propre, réduit à une initiale. Et donc, dès les premières pages, on est à cette limite avec Duras, puisqu'elle marque l'impossibilité de dire « lol » par un recours au fragment. Comme le souligne Laurence Bougaud dans l'article « Enchivet du ravissement de Lol Wittgenstein », reflet d'un roman anti-narratif, le lacunaire s'inscrit comme premier principe de structuration textuelle du roman. Alors, je vous cite, c'est ce petit bout coupé du début du roman. Lol Wittgenstein est née ici, à Estala, et elle y a vécu une grande partie de sa jeunesse. Son père était professeur à l'université. Elle a un frère plus âgé qu'elle de 9 ans. Je ne l'ai jamais vu. On dit qu'il vit à Paris. Ses parents sont morts. Je n'ai rien entendu dire sur l'enfance de Lol Wittgenstein qui m'est frappée, même par Tatiana Karl, sa meilleure amie, durant leurs années de collège. Et un peu plus loin, je ne crois plus rien de ce que dit Tatiana, je ne suis convaincue de rien. Fin de la citation. Donc, là où on pourrait s'attendre à trouver une mise en contexte du récit, au moins quelques détails signifiants sur le narrateur, Durand ne nous offre, vous l'aurez remarqué, qu'un tissu de privation. D'abord, le nom de Lol reste incomplet, on l'a dit, mais son âge aussi est omis, sinon que par une mise en relation avec celui de son frère, elle a 9 ans de plus que lui. Mais celui-là aussi reste dessus, donc on n'est pas nécessairement très avancé. Encore, on ignore la manière dont ses parents sont morts et à quel moment. Nous n'assumons le lieu de résidence de son frère qu'en consentant au oui-dire dont on ignore la source. Nous savons que Lol a eu une enfance, mais comprenons qu'elle ne sera pas matière à récit. Et le narrateur lui-même, que nous savons masculin de par la conjugaison de la tribu, se dérobe à toute identification. Pied-né, dira-t-on, qui sert une fonction bien précise, c'est de faire, par cet indicite incomplet, de l'impossibilité d'atteindre à l'objet du discours la prémisse du roman. L'attente est donc déçue avant même d'être actualisée, et Duras se fait ainsi de la présence de l'absence, le nœud indénouable mais productif de son œuvre, et cela à la fois dans le récit et dans la narration elle-même. De cet objet, LOL, la lectrice assistera donc au dédoublement. LOL comme objet du désir de Jacques, dont on saura un peu avant le milieu du roman d'ailleurs qu'il est narrateur, et elle, l'objet de son discours. Je cite ici, en essayant d'accentuer, moi j'ai pas pensé à faire un PowerPoint, ça aurait pu aider, mais je vais essayer de souligner où je crois qu'il faut que ce soit souligné. Alors, comme la première fois, LOL est déjà là, sur le quai de la gare, presque seule. Les trains des travailleurs sont plus tôt. Le vent frais court sous son manteau gris. Son ombre est allongée sur le pied du quai, sur la pierre du quai, pardon, vers celle du matin. Fin de la citation. LOL est donc presque seule, c'est-à-dire presque une, redoublée de son ombre, LOL jamais une, plutôt, toujours plus morcelée à mesure que s'accentue le processus de dépersonnalisation et que le pronom, éventuellement, prend le pas sur le prénom lui-même. Swad Kerby remarque, et je la cite, ce prénom de LOL est un peu comme un L à rebours ou en miroir. L'un et l'autre, elle et LOL, peuvent se lire dans les deux sens en parfait palindrome. Il y a là, entre le pronom et le prénom, une symétrie qui est asymétrique, car elle, avec un S ici, elle au pluriel, LOL et elle, ne coïncident jamais complètement dans le corps du texte. Fin de la citation. Dissociation, rupture du sujet, d'autant plus accusée que la narration s'assure de la traduire dans la forme même du dire. Je reprends l'argument de Kerby ici qui attire l'attention sur ce passage où le sujet se fait étranger à lui-même par l'utilisation de la double désignation. Je parle encore de elle et lol. J'ouvre la citation et j'essaie de faire ça clairement. Alors, elle ne se demande pas d'où vient la faiblesse merveilleuse qui l'a couchée dans ce champ. Elle la laisse agir, la remplir jusqu'à la suffocation, la bercer rudement, impitoyablement, jusqu'au sommeil de LOL Wichstein. Vous voyez, c'est elle, c'est bien LOL, mais c'est elle qui se laisse bercer jusqu'au sommeil de son autre, finalement. S'ajoute à ce dédoublement, évidemment, l'incapacité explicite du narrateur à répondre de sa fonction. Je vous cite Jacques. Aplanir le terrain, le défoncer, ouvrir des tombeaux où LOL fait la morte, me paraît plus juste du moment qu'il faut inventer les chaînons qui me manquent dans l'histoire de LOL Wichstein que de fabriquer des montagnes, d'édifier des obstacles, des accidents. Et je crois, connaissant cette femme, qu'elle aurait préféré que je remédie dans ce sens à la pénurie des faits de sa vie. Fin de la citation. Alors Jacques, comme le narrateur de Wolf plutôt, explicitement mention de son recours à l'imagination pour pallier à son ignorance. Il dit bien, du moment qu'il faut inventer des chaînons qui manquent. Et c'est une impéritie qui est d'ailleurs réitérée dans le verbe. J'invente revient beaucoup, ici j'imagine, là je crois, ici je vois, pas toujours très clairement. Et rarement seulement je sais, c'est-à-dire Jacques sait, très très rarement. Ces défectuosités et ces résistances narratives ont bien sûr pour effet de souligner dans la forme du texte ce qui nous est donné dans le contenu, soit que l'accès du narrateur à son objet se dispute à travers le prisme d'un fantasme ou de l'amour, et ici les deux, dans ce cas bien précis, les deux se confondent. Autrement dit, la narration est tout entière désir, poursuite d'un objet à jamais fuyant, et donc poièse, parce que construction à la fois d'une image qui, adéquate ou non, c'est une autre question, puisse permettre d'atteindre, pour Jacques du moins, à la jouissance. À travers cette écriture du trauma, où se rejoue la nuit du casino de Key Beach, le ravissement est vécu avant tout comme dépersonnalisation par laquelle LOL est rendue étrangère au monde et à sa propre histoire, dépossédée de mots pour exprimer à la fois l'inen et l'omvelt. Alors, je vous cite un moment où il y a un moment dans le texte, c'est assez tôt, mais LOL cesse de parler. Elle parle les mots. Puis, LOL cessa de se plaindre de quoi que ce soit. Elle cessa même petit à petit de parler. Sa colère vieillit, se découragea. Elle ne parla que pour dire qu'il lui était impossible d'exprimer combien c'était ennuyeux et long, long d'être LOL Wittstein. Et si j'attire votre attention, c'est encore le même processus de duplication. Elle parle pour dire comment c'est long d'être LOL Wittstein. Alors, on lui demandait de faire un effort. Elle ne comprenait pas pourquoi, disait-elle. Sa difficulté devant la recherche d'un seul mot paraissait insurmontable. Elle parut n'attendre plus rien. Pensait-elle à quelque chose, à elle, lui demandait-on? Elle ne comprenait pas la question. On aurait dit qu'elle allait de soi et que la lassitude infinie de ne pouvoir se déprendre de cela n'avait pas à être pensée, qu'elle était devenue un désert dans lequel une faculté nomade l'avait lancée, dans la poursuite interminable de quoi? On ne savait pas, elle ne répondait pas. Fin de la citation. Alors pourquoi priver LOL de mots ici? Jacques Lacan répondrait, on l'a vu à plusieurs reprises aussi, que peut-être cette brèche dans l'ordre symbolique accentue la dérealisation, c'est-à-dire que LOL rétrograderait au stade d'avant l'accès à la subjectivité dans et par l'universel du langage. Maintenant, est-ce que ces mots consacrent la folie de LOL Wittstein? Parce que c'est une formule qui revient, LOL Wittstein était folle, LOL Wittstein est folle, LOL est folle, sous toutes les dérivations possibles. Mais le fou parle souvent, et parfois il parle beaucoup. Formellement, c'est-à-dire par-delà sa prétendue nature symptomatique, cette privation langagière réitère surtout, me semble-t-il, la nécessité d'une lecture méfiante, dans la mesure où Old perd alors le moyen du discours rapporté. Là, il le dira plus loin. Pour atteindre à celle qui soustrait donc au dire, à celui du narrateur, en même temps qu'à ses propres mots à elle, le narrateur assumera le rôle du voyeur vu. Dans un curieux revirement, il deviendra donc, à mesure qu'il regarde LOL le voir, et à mesure qu'il rapporte cette expérience particulière, l'objet de son propre regard. Titi Rantanen écrit, et je cite, parce que c'est très bien, très bien, très bien dit, et ça s'applique pour beaucoup d'autres œuvres de Dura, je pense. In this embedded structure, he steps outside of his own primary experience and turns the narrating gaze inward through this female gaze, which is always already narrated, thus objectified. As Old chooses to be Lol's object, he transforms into some kind of fetish, also to himself. In the hermeneutic universum of Dura's fiction, gazing you is gazing me simultaneously. Ce voyeurisme en miroir, donc, ultimement auto-réflexif, trouve une de ses plus puissantes expressions dans le fameux passage de la scène de la réunion secrète à l'Hôtel des Bois. De l'extérieur, LOL observe à travers la fenêtre qui donne sur cette chambre où se retrouvent Jacques et Tatiana. Et donc, dans un champ, le passage, j'ai cité le sommeil de LOL Wittstein, en fait, elle est dans ce champ. Et elle regarde à la fenêtre. Sa meilleure amie et son amant. Alors, je cite, « Il devait y avoir une heure que nous étions là tous les trois, qu'elle nous avait vu tour à tour apparaître dans l'encadrement de la fenêtre, ce miroir qui ne reflétait rien et devant lequel elle devait délicieusement ressentir l'éviction souhaitée de sa personne. » Cette fenêtre est donc, c'est écrit, ultimement moins fenêtre que miroir, dont l'absence de reflet permet à LOL, justement, de se réinventer une histoire à travers la production imaginaire d'une autre image spéculaire. Et cette image spéculaire, cette nouvelle image, c'est une triangularité nouvelle, LOL, Jacques et Tatiana, donc, qui remplace l'ancienne triangularité, celle de la nuit du casino de Key Beach, où son maman est partie avec l'autre femme, Strether, de laquelle elle sera, donc, de cette triangularité, elle sera évidemment témoin toujours, mais au moins maître d'œuvre. Dans le roman de Duras, toutes les relations entre les personnages, presque toujours indirectes, c'est-à-dire affectées en amont par le dire ou par le fantasme, se construisent à travers le prisme de la vision et personne n'y échappe, ni Tatiana, ni Lol, ni le narrateur lui-même qui, comme le signale Lacan dans son hommage à l'auteur, n'en est en tout cas pas simple montreur de la machine, mais bien l'un de ses ressorts et qui ne sait pas tout ce qu'il y prend. Cette structure textuelle fait apparaître de manière expresse que l'édifice narratif doit être reçu lui-même et peut-être plus que tout autre objet comme matière à récit. Plus important encore que l'histoire de Lol, à laquelle elle est de toute façon elle-même étrangère, ce qui se dévoile dans le dire trouver le narrateur pris à son propre jeu. Dans le cas de The Lady in the Looking Glass, tout l'édifice narratif tombe au moment où Isabella Tyson entre dans la pièce et se pose devant le miroir. Parce qu'éventuellement, elle revient du jardin. Celle qui était absente se vide de toute qualité dans l'apparition pour mettre en lumière l'échec presque pathétique de la narration. Plus encore qu'il n'échappe donc, l'objet dans ce cas est comme les meubles plutôt expirent. Je cite la fin de la nouvelle. Here was a woman herself. She stood naked in that pitiless light. And there was nothing. Isabella was perfectly empty. She had no thoughts, she had no friends, she cared for nobody. Aussi, le reflet est-il le lieu d'une trahison, évidemment brusque et totale. Isabella est, semble-t-il, encore plus absente que lorsqu'elle n'y était pas. People should not leave looking glasses hanging in their room. C'est la première, mais c'est aussi la dernière phrase de la nouvelle de Woolf. Or, au fil de la performance narrative, qui est elle aussi tout entière voyeurisme, quelque chose comme de l'inconfort. C'est que la question revient sans cesse à l'esprit de savoir si ce narrateur, ce one, a été invité là où il est ou non. Devant les deux entités closes que sont son soliloque et Isabella Tyson comprise comme objet de désir, et j'entends ici désir comme stricte poursuite de l'objet à représenter, ce qui semble résolument manquer ici, c'est quelque chose comme une rencontre intersubjective. Ce qui nous ramène au roman de Duras, où le voyeurisme est en quelque sorte circulaire. Là où chacun se dérobe constamment à la vue de l'autre, non, à la vue et au dire, pardon, chacun se sait pourtant cible du regard de l'autre, et regarde lui-même cet autre regardant pour se mieux voir soi-même. Aussi, le reflet spéculaire est-il ici relationnel, en ce qu'il construit tous les termes du récit, faisant la tâche de distinguer l'objet et de son reflet une entreprise stérile, insignifiante. On aurait évidemment bien mal lu le ravissement de Wittgenstein et de Lady in the Looking Glass si l'on consent à la phrase de leur narration. Lol est folle, nous dit-on. Nous suffira-t-il de l'entendre répéter? Le ravissement de Lol Wittgenstein ne raconte pas l'histoire de Lol. Il met en forme et construit les éléments d'une rencontre par laquelle Lol aura été ensevelie en même temps qu'elle est mise au monde. S'il y a folie dans le roman de Duras, c'est moins celle de Lol que celle de son double, cette elle qui n'est pas matière à récit, mais matière du texte lui-même. C'est cette seconde folie, celle qui permet au personnage de prendre cette femme dont l'existence fait défaut dans leur monde, cette folie qui se retrouve en aval donc, résultat et fonction de l'écriture elle-même, qu'il nous faut réfléchir dans ce qu'elle accuse dans sa réitération. Être dans le jeu de la littérature, vous le savez, on le sait, c'est aussi parfois être lié à ce que l'on a devant les yeux. Green in nature is one thing, green in literature is another. Ce n'est donc plus la femme qu'il faut tenir pour l'objet de notre lecture. Et en tout cas, c'est ce que Duras me semble souligner très souvent. Et c'est en cela que je peux la considérer comme une alliée. Ce n'est donc pas la femme qu'il faut tenir pour l'objet de notre lecture, mais la violence de sa capture. Jacques Lacan écrit, à la toute fin de son hommage, n'est-ce pas assez pour que nous reconnaissions ce qui est arrivé à Lol et qui révèle ce qu'il en est de l'amour, soit de cette image, image de soi dont l'autre vous revêt et qui vous habille et qui vous laisse quand vous en êtes dérobé, quoi être sous. Fin de la citation. Ce qui doit donc attirer notre regard, c'est ce jeu du vêtir de vêtir qui affecte et entraîne les personnages et produit des poupées, en quelque sorte. Ici, une Isabella vidée, là, une Lol muette. Qui habille qui dépouille qui? On ne saurait répondre à l'éternelle question de savoir qui est cette fameuse Lol Wittgenstein. Sous elle, tout en dessous, il y avait bien Lola, mais celle-là a disparu déjà, trahie avec le premier mot de Jacques sous la plume de Duras. Il en va de même pour Tyson, Isabella, dont le reflet n'a rien su concéder. Vaut mieux peut-être, diriger notre lecture de façon à découvrir comment s'articule le ravissement ou le revêtement, l'habillage des spectres, qui sont, me semble-t-il, les seuls objets que nous rendent un peu les mots de Wilfrid de Duras.